Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Roten, la grande explication.
Qu'est-ce que tu as ? Tu as pas peur au moins ?
Non, je suis pas convaincu, encore une fois, j'attends de voir en fin de saison.
Tu as aucune raison d'avoir peur.
Je crois qu'il le pense, mais ça veut pas dire que il va nous laisser...
Je sais que je pars de loin.
Aujourd'hui, dans le monde entier, on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal.
Tête du club, je dis pas que Pep Genesio n'est pas un vrai patron.
Y a pas de revanche particulière.
Tout le monde pardonne.
Comme quoi, c'est pas le même entraîneur que quand il était à Lyon, et ça me fait plaisir de l'entendre, parce que mes critiques sont parties sur toutes ces années lyonnaises.
Nous, c'est le danger contre lequel on doit lutter.
C'est le grand pardon.
18h tout pile sur RMC, oui, vous l'entendez, émission exceptionnelle avec Bruno Genesio aujourd'hui pendant 2 heures. Oui, on va refaire le foot. Déjà, on va s'expliquer, du moins s'expliquer nos différends forcément qu'on a depuis quelques temps avec Bruno, et tout ça en très bonne compagnie comme tous les jours avec mon pilier Jean-Louis Tour qui a monté tout ça. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va ?
Oui, oui. Bon, là il faut citer Antoine Varnier aussi, le producteur de l'émission quand même, sans qui on ne serait pas là.
Oui, sinon il va être sympa. Sinon il va être contrarié. Il va être contrarié. Et puis on est aussi bien accompagné parce qu'on a deux consultants phares qui ont vraiment explosé les compteurs cette année. Vraiment une grosse satisfaction. Le meilleur d'Amazon, c'est Mathieu Bonnemer. Salut Mathieu. Ça va ?
Allons-y avec le micro de Mathieu. Ouais. Ce sera mieux et on pourra l'entendre. Vas-y Mathieu. Non, toujours pas.
Toujours pas.
Ouais, alors, tu peux passer à moi.
Alors voilà. Et puis on a notre champion d'Europe. Voilà. Maintenant, il est plus tout seul dans sa famille. Ils sont deux à être champion d'Europe. C'est Pascal Ometa. Salut Pascal.
Salut les amis.
Ça va ?
Et puis, comment tu veux que ça aille pas ? En plus, j'ai un ami en face de moi, Bruno Genesio, et dans un endroit où ça fait vraiment plaisir. C'est extraordinaire, faire des émissions comme ça, on devrait le faire tout le temps.
Ouais, t'as raison. Alors, on le précise, puisqu'on est pas loin du lieu de vacances de Bruno, qui nous accueille donc ici à la cabane bambou à Ramatuelle. Donc, effectivement, la vue sur la mer, c'est magnifique. Ouais. On se régale.
On va présenter. Il est bien sûr là. Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Ça va ?
Très bien.
Les vacances se passent bien ?
Ouais, c'est vacances avec beaucoup de coups de fil aussi, mais ça fait partie de notre job. Mais arriver à décompresser, c'est important après des saisons qui sont harassantes pour tout le monde. Donc c'est important de pouvoir couper un petit peu.
Alors Bruno Genesio avec nous, c'est l'événement donc ce soir dans Roten sans flamme, émission spéciale pendant 2 heures donc sur RMC. On remercie Bruno de nous permettre donc de faire ces 2 heures d'émission parce que on l'a jamais caché, mais avec vous deux, Jérôme et Bruno, la relation est pas forcément très fluide.
On s'est jamais vu, on s'est jamais parlé
exactement
donc, et à distance.
On sait aussi que Bruno a été parfois un peu irrité par certaines de tes critiques. Ça va être le moment ce soir donc de tout mettre à plat, de s'expliquer, de discuter et...
C'est pour ça que c'est important déjà.
Et alors juste avant Jérôme que tu commences, je précise pour les supporters rennais, à 18h30 on s'interrogera sur votre saison. Est-ce une grande réussite à vos yeux ? 32-16 pour participer au débat. À 19h, un des sujets qui vous tient à cœur Bruno, la considération qu'on peut avoir pour les entraîneurs français. On lance d'ailleurs le débat. Galtier ou même Genesio, un entraîneur français, peut-il réussir au PSG ? On fera le débat donc tout à l'heure, 32-16, il y a des cadeaux, donc restez bien avec nous jusqu'à 20h.
Et oui, on va commencer déjà. Merci beaucoup Bruno de me recevoir ici, de nous recevoir ici. Déjà dans un premier temps, on va se parler, et puis c'est mieux de se parler comme ça ouvertement des différends qu'on peut avoir tous les deux, du moins mon point de vue, mon ressenti et des choses, et je le sais parce que tu en as parlé à beaucoup qui t'ont blessé et qui ont blessé ta famille. Donc bien sûr que on est là pour parler avant tout de ça, et puis surtout de parler de foot et de ton avenir, de la saison du Stade Rennais. Je pense que voilà, c'était important de mettre ça sur la table, et donc encore une fois je te remercie de me donner la possibilité de se parler, et puis de voir que en fait on n'a pas une vision trop lointaine tous les deux, parce qu'on reste des passionnés de football.
Non, c'est le mot, c'est se parler. J'aime pas trop le mot explication. Je suis pas venu ici pour régler des comptes ou m'expliquer. Je suis là pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse m'exprimer sur ce que j'ai ressenti. Parce que forcément, tu es dans une position qui est différente de la mienne. Il y a des choses qui ont été dites et qui m'ont heurté. Mais voilà, je suis là pour m'exprimer. Si je suis venu, c'est avant tout pour échanger, discuter. Et comme tu l'as dit, parler foot en compagnie de gens que j'apprécie beaucoup, parce que tu as parlé de Mathieu. Et Mathieu, je l'ai connu comme joueur et je lui ai dit déjà, mais il le sait. Et il m'a impressionné dans sa reconversion de consultant. Je pensais pas qu'il allait prendre. Je savais qu'il connaissait très 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 bien le football. Il y a pas de problème là-dessus. Mais comme c'est quelqu'un qui était un petit peu introverti, je pensais pas qu'il prendrait autant d'ampleur dans ce nouveau rôle. Et Pascal, on se connaît depuis longtemps, depuis Lyon. Et Bruno. On a vécu plein de choses ensemble.
Alors vous étiez dans le vestiaire ensemble.
Balance pas tout.
Non, Bruno.
Et tu sais que moi, je t'adore. Je l'ai toujours dit, même devant ce Parisien de Jérôme.
Ce Parisien, n'attaque pas
Bruno, c'est mon ami. Et comme entre footballeurs, on ne peut pas s'attaquer. Qu'on ait des choses à dire parce qu'on a notre vision. Toi qui as la tienne, il a la sienne, j'ai la mienne. Moi, j'ai la mienne, plus gardien de but. C'est pour ça que... Mais après, voilà, il y a la question, les entraîneurs peuvent-ils
entraîner les clubs français ? Alors, avec,
non, mais c'est ça qui est beau.
On en reparlera tout à l'heure. Avec Pascal, vous étiez partenaire à Lyon, dans le même vestiaire, et Mathieu, donc Bruno, vous étiez dans le staff lyonnais à l'époque. Alors, justement, l'époque lyonnaise, c'est de là que remonte votre différence, certaines critiques, Jérôme, que tu as pu faire à Bruno à l'époque.
Oui, bah les critiques, bon, de toute façon, tu les as entendues. Je pense qu'il y a déjà un système à Lyon qui était comme il est encore actuellement, et c'est pour ça que ce club souffre de pas gagner de titre depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, je trouve que, en effet, les choses que je pouvais te reprocher, en effet, c'était surtout le premier questionnement que j'ai et les interrogations que je me pose encore aujourd'hui, c'est, je me dis, c'est compliqué d'entraîner à Lyon, d'entraîner des joueurs avec une forte personnalité. Et c'est vrai que je reconnais, parce que c'est ce que je pense, et tu vas peut-être me répondre à ça, que je trouve que tu as beaucoup de qualités, et tu l'as montré pour entraîner des joueurs à Rennes, qui sont des très bons joueurs. Attention, je manque pas de respect aux joueurs de Rennes qui ont réalisé une belle saison. Mais que tu as plus de facilité à entraîner ces joueurs-là que d'entraîner, par exemple, des Memphis Depay. Qu'est-ce que tu réponds à cette première critique?
C'est exactement l'essence même de ce que je conteste. C'est-à-dire sur quoi tu t'appuies pour penser ça? Est-ce que c'est des choses qu'on t'a rapportées? Est-ce que c'est un ressenti que tu as?
C'est un ressenti.
Voilà.
C'est un ressenti.
Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'il n'y a pas de faits avérés qui peuvent te faire affirmer ça. Et c'est juste une image que j'ai, à juste titre ou pas. Je sais que quand j'ai commencé à Lyon, évidemment que on rentrait dans le grand stade et j'ai été le premier à le dire. Certainement que les publics lyonnais, les supporters lyonnais, les consultants, les journalistes attendaient un grand nom, un grand entraîneur. Il se trouve que c'est moi qui prends la suite alors que je suis adjoint. Je peux comprendre que ça surprend.
Qu'il y a une frustration.
Mais derrière, il y a des choses qui ont été faites, des très bonnes choses, des choses moins bien et je l'ai aussi dit. Mais ce qui me gêne, c'est pas la critique. On peut me critiquer sur mes choix, on peut me critiquer sur mes changements quand c'est pas bien, quand c'est... Ce qui me gêne, c'est cette image qui m'a été collée dès le départ, sans aucun argument valable. C'est-à-dire, Genesio, c'est le gentil entraîneur qui est copain avec les joueurs, qui peut gérer des jeunes, mais qui peut pas gérer des Memphis ou des Nabil. Et pendant 3 ans et demi, je les ai gérés, les Memphis, les Nabil, les Oussem Aouar, j'en oublie, parce que j'en ai eu
beaucoup.
Non,
mais tu les as gérés, mais sans titre, Bruno.
Oui, sans titre, mais
avec titre. Avec des claques par moment. Oui, je te parle pas qu'en championnat, parce qu'en championnat, tu finis 3e, souvent sur le podium, 2e et 4e.
4-3-3 pour le classement.
On a fait 3 fois la Champions League, une fois l'Europa League, une demi-finale d'Europa League où on s'est fait éliminer contre l'Ajax, où là aussi, on m'a fracassé parce que l'Ajax avait un budget moins important que Lyon. Il me semble qu'il y a un club français qui s'est fait éliminer il y a pas longtemps par Feyenoord. J'ai pas entendu les mêmes critiques. Mais encore une fois, c'est pas pour tirer sur l'un ou sur l'autre. C'est juste pour vous expliquer mon ressenti. C'est-à-dire que depuis que je suis devenu entraîneur professionnel, parce qu'avant d'être entraîneur professionnel, j'ai quand même fait quasiment 15 ans dans les staffs. J'ai connu des entraîneurs et des entraîneurs qui ont gagné des titres. Et depuis que je suis entraîneur professionnel, j'ai l'impression que j'ai cette image-là qui a été collée. On m'a mis dans une case. Je suis un gentil copain avec les joueurs. C'est pour ça que de temps en temps ça marche. Mais puis c'est pour ça que ça marche pas de temps en temps.
Non,
c'est ça que je conteste.
Non, mais gentil, c'est ce que tout le monde dit sur toi, que t'es quelqu'un d'attachant et très gentil.
Je préfère humain que gentil.
Oui, bon.
Gentil, c'est un côté un peu péjoratif.
Ouais, gentil n'a qu'un œil. C'est ce qu'on dit. Non, mais bon, gentil, c'est pas dans ma bouche, c'est pas péjoratif quand je dis gentil. Par contre, gentil avec les joueurs, ça, j'en sais rien parce que je suis pas dans le vestiaire au quotidien. Donc ça, je peux pas savoir ce que tu mets en place. Mais moi, le ressenti que j'ai à travers les équipes, et par exemple tes équipes à Lyon, c'est que il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et que cette personnalité-là, si tu veux, se rejaillit sur le groupe. Le fait d'être comme ça, d'être si tu veux, de manquer
de grinta,
de grinta par moment, voilà. Alors toi, t'es comme ça, c'est ta personnalité.
Non, mais je suis pas comme ça. C'est ça que je conteste. Mmh. C'est-à-dire que parce que j'ai une image, parce que quand je suis au bord de la touche, je me roule pas par terre, gesticule pas dans tous les sens.
Je te demande pas de faire du Sampaoli, hein.
Non, mais là, je parle pas de ça. Je parle de moi.
Ouais.
On colle cette image-là. Mmh. Il y a des fois aussi où je suis capable de me mettre en colère. Il y a des fois où je suis capable de recadrer. Il y a des fois où je suis capable de mettre un joueur avec un statut très très important sur le banc, voire même en tribune. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est cette image-là qui m'a été collée que je conteste.
À Lyon, tu l'as fait ça?
Bien sûr. Bah, Memphis, on parlait de Memphis tout à l'heure, il a été sur le banc. Nabil, qui était mon capitaine, a été sur le banc. Mmh. Mais pas parce que je voulais mettre une star sur le banc, parce que j'estimais que c'était
qu'ils étaient
à ce
pas
moment-là
performants,
la meilleure décision possible. Peut-être à juste titre, peut-être pas, parce que les choix, on sait qu'après s'ils sont bons ou pas. Mais moi, c'est surtout ça que je conteste.
Mmh.
Et c'est surtout à partir de là que tous ces jugements se sont accumulés par rapport à cette image qui m'a été collée par certains d'entre vous. Il y a pas de nombreux.
Non, mais moi, je
défile pas. C'est ça que je t'ai reproché, surtout. Mmh. Parce que sans connaître les tenants et les aboutissants, tu l'as dit, tu n'étais pas dans le vestiaire. Alors peut-être tu as des échos, je ne sais pas.
Non, mais j'ai commenté les matchs. J'ai commenté les matchs à l'époque, hein,
oui,
de Coupe d'Europe.
Mais donc,
alors, c'est vrai qu'on
se croisait
dans le couloir, mais on se regardait
sur
pas.
Sur ma façon d'être, parce que je me mets en survêtement et pas en costume trois pièces. Voilà, c'est ça que je conteste.
Non, en fait, c'est pour moi, c'est un tout. C'est ce que dégage l'équipe, déjà, parce que je suis passé par là aussi sur le terrain et j'ai connu des saisons où tout roule et qu'on a une force collective qui est bien générée par l'entraîneur, qui est le chef d'orchestre. Mmh. Et puis, il y a des groupes, en effet, et c'est ce que j'ai ressenti à Lyon, où par moment ça va bien, et puis par moment ça va pas bien, et que ça manque de personnalité, que ça soit sur le banc de touche, mais pas que toi, parce que t'as aussi un staff, t'es pas tout seul entraîneur, et aussi retranscrit par des joueurs sur le terrain. Tu vois, j'ai l'impression que par moment ça s'endormait. Et c'est pour ça mes critiques, elles sont parties de là, parce que moi je reste persuadé que tes années à Lyon, elles sont bonnes. J'ai jamais dit qu'elles étaient pas bonnes.
Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Moi, je suis le premier à reconnaître, par exemple, l'élimination contre Rennes en demi-finale de Coupe de France. Pour moi, c'est un gros point noir dans mon passage à Lyon, parce que c'était une finale derrière, peut-être un titre. Tu l'as dit, on n'a pas gagné de titre depuis très longtemps.
Mais c'était une soirée particulière, parce que Jean-Michel Aulas annonce votre départ après ce match.
Aussi,
donc c'était assez surnaturel tout ça.
Donc je suis conscient qu'il y a des choses. Mais quand je prends les 3 ans et demi que j'ai fait, on a battu le nombre de records de buts marqués dans toute l'histoire du club.
Mm-hmm.
Et ce jour-là, on a dit oui, mais c'est parce que les joueurs font la différence tout seuls. Il n'y a que des exploits individuels. On a marqué, je crois, 125 buts. Mm-hmm. 125 exploits individuels.
Ça on est d'accord. Mais là, quand tu donnes des stats comme ça, moi, je me serais pas permis de dédouaner l'entraîneur, de dire c'est pas l'entraîneur n'est pas responsable. On parlera tout à l'heure de la saison rennaise. Bien sûr que t'es responsable aussi de ce qui s'est passé et du
pas
beau
tout
jeu.
Seul, pas
non,
tout seul.
Pas tout seul. Mais on peut pas retirer l'entraîneur et lui reprocher des choses à l'entraîneur. Pareil, quand tu gagnes pas des titres, en disant c'est de la faute de l'entraîneur. Les joueurs sont aussi responsables. Mais pour moi, c'est un tout. Et c'est pour ça. Pour moi, à Lyon, mais t'étais un jeune entraîneur, c'était ta première expérience en tant que numéro un. Pour moi, il y avait des manques, et c'est pour ça mes critiques, elles sont parties de là. Et des critiques sont parties de là parce que quand je venais commenter les matchs à Lyon, je me souviens très très souvent quand ton nom est annoncé avant les matchs, tu sais, il y avait beaucoup de sifflets.
Oui, bien sûr.
Donc c'est quand même pas Jérôme Rotten qui les a fait siffler, on est d'accord.
Non, mais j'ai jamais dit que c'était à cause de toi ou à cause de vous que j'ai été sifflé. J'ai expliqué le pourquoi de ces sifflets. Je pense que ça vient de là.
Et aussi parce qu'on l'a pas précisé, Jean-Michel Aulas annonce avant votre venue qu'il va y avoir un entraîneur de renom européen.
Et
à l'arrivée,
ce
qu'interprètent les supporters, c'est qu'il y a un adjoint qui arrive.
Mais quand même, parce que vous êtes énormément écouté.
Oui.
Parce que moi, en fait, tout ce qu'on me dit sur toi, c'est pas moi qui écoute. Hein. C'est tous les gens qui me rapportent.
Donc des fois il y a du bon et du moins bon.
C'est vrai. Donc je vérifie l'information maintenant.
C'est mieux.
Mais quand même,
dernièrement, pareil.
On t'a rapporté des choses qui n'étaient pas les
bonnes.
Mais quand même, quand tous les soirs vous entendez sur une antenne où il y a beaucoup d'audience que l'entraîneur c'est une pipe, que l'entraîneur il fait pas les bons choix, que l'entraîneur il est trop gentil, que l'entraîneur il a besoin des clés du vestiaire.
Je crois qu'on a pas dit c'est une pipe quand même. Personne n'a dit.
Moi j'ai dit Pep. Mais j'ai pas dit Pep.
Bruno, ça c'est un peu la mentalité française. Tu sais, quand on a un entraîneur qui réussit, on est tous comme ça à le critiquer parce que Déjà, quand tu aimes bien la personne, malheureusement ou heureusement, bon, ça va pas avec. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup d'audience, Jérôme. Il est écouté. Les gens aiment ça. Quelquefois, bon, il est dans son élan de parler de tel club, de tel entraîneur. Mais notre force.
Des fois, la forme n'est pas bonne. On est d'accord.
Non, mais des fois, tu es en plein dedans parce que tu le vis. Le jour où tu le vivras plus, je pense que tu arrêteras.
Ouais, exactement.
Radio. Mais ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre ensemble, c'est qu'on doit être tellement unis. Que le football français doit être.
Oui, mais tu sais, Pascal, je suis d'accord, mais ça t'empêche pas d'émettre des critiques quand tu le penses. Non, mais après, je comprends Bruno, si tu veux, sur le fait les reproches. En effet, où tu dis c'est un ressenti et j'étais pas dans le vestiaire et tu m'as apporté des réponses en disant je suis pas forcément comme ça. Des fois je fais ça, bah c'est bien de se parler et de s'en expliquer. Et encore une fois, je te dis si tu as souffert de cette image que je t'ai collée moi et certains, déjà je m'en excuse parce que moi je suis pas responsable des couillons qui vont venir menacer à droite et à gauche. Moi je parle de foot, de passion et c'est mon ressenti. Et encore une fois, à travers le fait que je sois là en face de toi aujourd'hui. Moi, j'ai pas de problème à m'expliquer. Au contraire, on parle de foot encore une fois. Et moi, j'ai connu le terrain. Toi, tu y es encore dedans. Donc, forcément, on est là pour apporter des choses. Et alors, avant de donner la parole à Mathieu, je voulais revenir sur ce côté-là, façon Grinta et tout ça. En fait, ma critique, elle part de là parce que je vais te comparer à Christophe Galtier.
Ouais.
Tu vois, pour moi, par rapport à ce que tu fais à Rennes aujourd'hui, je pense que tactiquement, techniquement, t'es au-dessus. Très honnêtement, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, parce que quand on regarde Rennes jouer, on s'éclate. Nice, on peut pas dire, même si c'était le début d'un projet pour Christophe, et même à Lille, quand il était champion, on peut pas dire que c'est tactiquement et techniquement qui nous a éblouis. Par contre, il a ce côté, si tu veux, meneur d'homme, Grinta, qui parle pour lui. Et c'est, pour moi, à mon sens, ce qui te manque en par rapport à Christophe, qui lui a fait gagner des équipes. Tu vois, c'est ça. Moi,
sans que ce soit que de l'image, c'est aussi sur ce qu'il transmet.
Exactement.
À ses joueurs,
je pense que voilà, dans la transmission, mais encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Mais c'est ce qui peut-être te manque par rapport à Christophe.
Non, mais ça. Après, chacun est libre d'avoir son ressenti. Et je sais que j'ai cette image-là, mais elle est fausse. C'est ça que je veux dire. C'est que et peut-être que le fait de gagner un titre, ça m'aurait aidé à la casser.
Mais je pense que
peut-être
oui.
Tu parles de Christophe, c'est parce qu'il a gagné. Partout où il est passé, Christophe.
Aussi, ouais.
Il a gagné à Saint-Etienne, il a gagné avec Lille.
À Lille. Pas à Nice.
Mais voilà. Et puis, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dans le métier, donc il a une légitimité qui est supérieure à la mienne aujourd'hui.
Bon.
Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai à contester, et j'ai pas envie non plus de faire le caliméro, c'est cette image-là qu'on m'a collée, et ces critiques qui ont toujours été négatives. C'est-à-dire que même quand je faisais des choses plutôt bien, quand on faisait des choses plutôt bien, on n'en parlait pas.
Oui.
Parce que ce qui est facile pour vous, c'est que vous avez le temps pour vous. C'est-à-dire que si je gagne 10 matchs de suite, vous n'allez rien dire. Si j'en perds 5 de suite,
Bruno,
là, vous pouvez parler.
Bruno, c'est pas vrai, parce que tu viens de le dire, c'est les gens qui te répètent.
Oui.
Et les gens, ils n'ont pas envie de te répéter quand on parle de choses de bien.
Oui,
eh ben oui. Et certainement,
mais globalement, Jérôme reconnaît que peut-être cette année, tu as changé, mais tu as mis du temps quand même à reconnaître que j'étais capable de faire des choses.
C'est vrai.
On va continuer la discussion.
C'est pas la critique.
Non,
je fais un autre métier. Si je veux pas être critiqué, je fais un autre métier.
On continue la discussion dans une seconde. On revient dans une minute seulement dans Rotten sans flamme, en direct donc de Ramatuel avec Bruno Genesio. On entendra Mathieu Bodner qui écoute ça avec beaucoup d'attention. Donc,
il va parler maintenant.
Et puis, on parlera de la
saison. Il va aller dans mon sens quand même.
En détail, dans une seconde. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Rotten, la grande explication.
18h20 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, bien sûr, émission exceptionnelle avec Bruno Genesio. Et oui, il est encore là, Bruno. Il a tenu le premier quart d'heure, mais je pense qu'il va tenir les deux heures. On est là aussi avec Pascal Olmeta, bien sûr, avec Mathieu Bonheur qu'on n'a pas entendu, mais qu'on va entendre.
Il y a un problème de micro
tout de suite. Oui, voilà, maintenant t'es revenu. On est toujours, bien sûr, avec Jean-Louis Tour. Et Jean-Louis, on continue notre échange. Voilà.
Oui, exactement. Et puis on parlera de la saison de Rennes à 18h30. Supporter rennais 32-16. On va faire le bilan de la saison. Et puis on a aussi plein de questions à Bruno sur le mercato à lui poser. Il est avec nous jusqu'à 20h.
Il a plein de réponses. Donc,
Il
nous a tout vendu. Hein,
il nous a tout dit en off. Ouais, c'est ça. Déjà, il faudrait qu'il commence par nous dire si lui, il reste. Parce que
il est sous contrat.
Mais bon, on en parlera effectivement. Un an de contrat. Alors, on était dans l'explication. Jérôme, les reproches que tu avais envers Bruno et vice versa.
Mathieu, ouais.
Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno. Et je comprends sa position. Bruno, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. On s'est côtoyé à Lyon. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il sait très bien. Et c'est vrai que parfois, tu as été dur dans les années précédentes. Mmh. Et même cette année, il a raison. Plusieurs fois, on a fait des débats. Et tu as mis du temps. Et ça, faut le reconnaître. Petit à petit, il a mis du temps à changer. Mais au bout d'un moment, ta vision, elle a changé quand même de Bruno. Mmh. Et ça, je pense que c'est un pas qui est important. Je l'ai dit dans l'antenne. Et je suis content que vous parliez aujourd'hui parce que j'avais parlé avec Antoine il y a quelques mois et je comprenais pas qu'on n'arrivait pas à faire cette rencontre entre deux personnes intelligentes et voilà. Bruno, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça me faisait chier, entre guillemets, que vous entendiez pas sur, voilà, des désaccords. Mais c'est vrai que parfois, t'as été dur et t'as mis, même quand il gagnait 5-6-0, tu te rappelles, on faisait des débats. Mmh. Je dis quand même, Rennes, ils ont été bons. Oui, mais c'est Clermont. Oui, mais c'était l'équipe. Et puis à un moment donné, ils ont gagné contre Lyon. Je dis, mais là, c'est Lyon. C'est le PSG. Et au fur et à mesure, Bruno, genre, je sais pas si t'as tout écouté. Et c'est pour ça, je pense qu'on est là aujourd'hui. C'est une satisfaction. C'est qu'à la fin, on a gagné, entre guillemets. Il a reconnu que Bruno.
On a gagné.
Et oui, parce qu'on a.
Vous êtes.
On a combattu. Non, parce que c'est important. C'est pas... Après, ça veut pas dire que tout ce que fait Bruno est très bien. Il a des défauts comme tout le monde. Je pense qu'il a il l'a dit, on est tous d'accord là-dessus, malheureusement, un déficit peut-être d'image par rapport à d'autres coachs parce que c'est quelqu'un qui se met pas en avant par rapport à certains, mais c'est sa particularité et moi c'est pour ça que je l'apprécie aussi, c'est quelqu'un qui a une très grande humilité. Mais maintenant, on est peut-être là aussi à un moment donné, nous, pour lui donner un peu plus de visibilité et rendre compte que son travail, à Lyon, il a fait des bonnes choses, des moins bonnes, mais regardez les passages des différents coachs derrière, tout n'a pas été parfait. Ils sont pas toujours qualifiés pour la Champions League, on a souvent décrié le club aussi. La saison qui vient de passer a été très compliquée pour le club.
Oui, mais ça, on s'en fout, Mathieu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que
Pierre-Paul Jacques n'ait pas réussi avant ou après Bruno. On n'est pas là pour faire.
Moi, ce que je ressens, c'est que les gens ont été, et pas que toi, hein, il a dit tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui ont été très dures avec lui pendant longtemps quand il a fait son passage à Lyon, même quand c'était bon. Et différents coachs sont passés derrière avec des résultats moindres. Cette année, par exemple, c'est prouvé. Hein.
Rudy Garcia, il en a pris quand même pas mal. Hein.
Rudy aussi. Peut-être parce que c'est un coach français et Peter Bosch.
Non, Peter Bosch, c'est vrai que.
Mais il est passé un peu entre les gouttes par rapport à eux. La vérité, elle est là. Il a fait une saison comme eux n'ont pas fait.
Mais parce qu'on on découvre. Mais je pense que l'équipe.
Mais tu penses que Bruno ou Rudy, parce qu'on va reprendre le cas de Rudy, les gens ils leur ont laissé un an. Moi, je suis pas sûr.
Alors, on fera le débat en profondeur à 19h les entraîneurs français.
Mais par contre, ce qui va être rassurant, c'est que si tu marches pas, Bruno, l'année prochaine, il va en parler de toi. C'est sûr. Mais après, moi, c'est même pas pour défendre Bruno, parce qu'on est là pour parler de football et faire passer le message. Je l'ai connu comme joueur, je l'ai connu dans les vestiaires. Aujourd'hui, c'est pas l'entraîneur de Marseille que j'ai pas connu qui est à courir de partout, mais quand on a connu le joueur, on sait comment il est entraîneur. Le message, il savait le faire passer avec sa gentillesse, son sourire. Aujourd'hui, après, on a connu Lyon ensemble, c'est pas évident de travailler là-bas. De s'y faire un chemin, alors c'est vraiment très dur pour un coach français. Voilà, il a marqué son territoire avec sa gentillesse, sa facilité, sa simplicité. C'est pour ça que je pense que ça continuera dans les années à venir.
Non, mais il y a pas pour entraîner. De toute façon, il y a pas un prototype type. C'est non, pas parce que ce mec-là est comme ça, donc il va gagner. Non, tous les entraîneurs avec différentes personnalités peuvent gagner.
Après, il y a le nord et le sud. Tu peux pas réussir à Nice.
Il faut s'adapter au club. Non, mais moi j'ai une question pour Mathieu.
Attends, parce que j'aimerais bien qu'on relance. Moi, j'adore vous écouter tous les trois, mais c'est tous les soirs comme ça. Donc profitons de la présence de Bruno quand même.
Moi, je pose une question à Bruno. Une question sur sur ce que je te reproche sur les années lyonnaises. Alors aujourd'hui à Rennes, pour parler de Rennes, l'effectif a très bien fonctionné tout au long de l'année. Franchement, en termes de jeu, les gens, c'est pas moi qui, les gens qui vont au stade s'éclatent à regarder ton équipe. Donc ça, c'est déjà une réussite.
Deuxième attaque de Ligue 1.
Tu dois être fier de ça, c'est sûr. Mais par contre, encore une fois, parce que là, on est dans la critique. Après, on parlera d'autres choses, bien sûr, du positif, parce que voilà. Mais dans les doutes que j'avais encore, et Mathieu ou Pascal, ils peuvent le dire, dans les doutes que j'avais cette année, c'est que je trouve que dans ton effectif, ça manque un peu de personnalité, de caractère fort.
Qui manque, je dirais pas de personnalité, mais de maturité. Parce que même si on a des joueurs qui ont, pour certains, entre 25 et 30 ans. Il y a très peu d'expérience en termes de nombre de matchs européens, par exemple, de Coupe d'Europe. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. Après, on reparlera de la saison, savoir si elle est bonne ou pas bonne, parce que j'ai mon idée. Mais c'est ce qui nous a manqué pour faire encore mieux. Parce que à certains moments très importants, des moments clés de la saison, il y a des matchs qu'on n'a pas su ne pas perdre ou gagner. et ça nous a manqué pour finir sur le podium en fin de saison.
Est-ce que tu t'interdis ou pas d'avoir des joueurs un petit peu casse-bonbon quoi?
Des Jérôme Rotten.
Non mais c'est vrai. Non mais parce que pour moi et je vais te dire et tu sais parce que t'as été dans des groupes que ça soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur où vous avez gagné. Mmh. Et moi je pars du principe que les joueurs casse-couilles, c'est ceux-là qui te font gagner les matchs, qui t'empêchent d'avoir une équipe qui s'endort.
Ouais, j'irais pas casse-couilles, j'irais des joueurs de personnalité.
Ouais.
Souvent avec des égos qui peuvent faire, qui peuvent être, comme tu l'as dit, casse-bonbon.
Ouais.
Mais c'est aussi une force par moment, parce que souvent ce sont ces joueurs-là qui font la différence aussi. On l'a connu hein, à Lyon, Pascal, c'était pas une personnalité lisse. Hein.
Non.
Mais Manuel Moreau, c'était
pas une personnalité lisse. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre discussion.
Mais Bruno, t'as été.
Ça fait gagner aussi.
Et pourquoi t'as pas ça dans ton effectif à Rennes?
Moi, dans l'effectif, déjà quand je suis arrivé, l'effectif était déjà constitué.
Bien constitué.
J'ai fait venir. Nous avons fait venir avec Flo Maurice, Gaëtan Laborde, qui est quelqu'un qui nous a amené ça.
Mmh.
Et on a eu un début de saison très difficile.
Ouais.
Et quand Gaëtan est arrivé, il nous a amené ça. Il nous a amené cette grinta.
Mmh.
Même s'il jouait à un poste d'attaquant, c'est lui qui déclenchait les pressings par ses courses lorsqu'on avait le ballon en profondeur, par sa personnalité de gagneur. Il nous a amené c'est un petit peu ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait venir.
Et il est difficile à gérer lui.
Non, il est difficile à gérer. Quand il joue pas, oui, il est difficile à gérer.
Tu le gères différemment.
Quand il sort, il est difficile à gérer.
Ouais, ouais.
Enfin, difficile à gérer. C'est pas qu'il est difficile à gérer. Il est mécontent quand il sort. Il est mécontent quand il joue pas.
Il te montre.
Mais à chaque fois, moi, je l'ai vu. Je me suis entretenu avec lui, comme je le fais aussi avec d'autres joueurs, pour expliquer mes choix. Et je dis souvent aux joueurs, c'est pas une question d'être gentil ou pas gentil. C'est une question d'avoir un management où j'ai envie d'échanger avec mes joueurs. Parce que je dis souvent, les joueurs de foot, c'est avant tout des hommes. On a toujours tendance à croire que parce qu'on est joueur de foot, on est un robot, on n'a pas le droit d'avoir de problèmes, on n'a pas le droit d'avoir d'émotions. Et à ce titre-là, j'ai beaucoup aimé l'article de Titi Henry sur l'équipe.
Sur la dépression des footballeurs.
Exactement. Ouais. Parce que je trouve que c'était très courageux de sa part d'en parler et qu'on n'en parle pas assez. Du coup, je m'attache beaucoup aussi à l'homme qui est derrière le joueur. Et je peux pas concevoir mon métier sans ça. Mais ça veut pas dire que je prends pas des décisions quand je dois les prendre. Ça veut pas dire que je recadre pas des joueurs en tête à tête. Je le fais avec mes arguments, avec ma personnalité.
Mmh.
Et j'ai eu la chance de connaître Carlo Ancelotti lorsque j'ai fait mon diplôme. La première chose qu'il m'a dit, c'est ça. Mmh. Il m'a dit, fais comme tu te sens et là où tu te sens le mieux. Et lui, c'est aussi ce qu'il fait. Bon, je m'inspire un peu de ça. Il y a d'autres qui s'inspirent du conflit, pour gérer. C'est différent. Voilà. Moi, je suis plutôt comme ça.
Et dans ton staff?
Oui.
Parce que voilà, j'ai aussi ton staff marche bien,
oui, très bien.
Bah, je pense, ouais. Mais est-ce que il y a pas un manque de ce côté-là au niveau d'avoir une personnalité différente que de la tienne?
Mais j'ai beaucoup de personnalités différentes et c'est ce qui fait la force de mon staff.
Ouais.
Parce que je pense que quand on a un staff, il faut qu'on ait des personnalités différentes et une complémentarité. Si on est tous pareils, forcément, on va très souvent être d'accord et on va pas avancer. Moi, ce que j'aime, c'est le désaccord. Et je dis souvent à mon staff, lorsque je fais quelque chose, lorsque je fais une compo d'équipe, je les consulte, mon staff proche. Si vous sentez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je souhaite que vous me le disiez. Après, je décide. Je tiens compte, je tiens pas compte. Et je peux te dire que dans mon staff,
il faut être capable de dire je suis pas d'accord.
Bien sûr.
Ça a évolué par rapport à Lyon.
À Lyon, j'avais Joe Batz. Qui a connu Joe Batz? Joe Batz, il faut se le farcir. Hein, il avait une idée en tête.
Il était entraîneur des gardiens aussi. C'est pas lui qui décide.
Moi, l'entraîneur des gardiens, c'est un adjoint pour moi.
Ouais.
Parce que souvent, les gardiens, ils ont une très très bonne analyse du jeu. Et Joe, par exemple, c'est quelqu'un sur qui je m'appuyais énormément.
Alors,
parfois,
merci Bruno, il faut qu'on cette vision.
Il faut qu'on fasse une pause.
Non, mais c'est vrai.
Moi, le truc que je retiens, c'est qu'il faut prendre Jérôme Rotten dans votre staff. S'il vaut quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais d'accord.
Moi, je suis bien là.
Ça serait bien avec Jérôme. La saison de Rennes est-elle une totale réussite? Le débat dans une seconde au 32-16. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Rotten, la grande explication.
18h35 sur RMC, toujours émission exceptionnelle, bien sûr, dans Rotten sans flamme avec Bruno Genesio, qui est toujours là, bien sûr, avec Pascal Olmeta, avec Mathieu Bonnemer, avec Jean-Louis Tour. Oui, on est bien là. Il fait bon et la clim elle marche pas trop, mais il fait lourd, mais tout va bien.
On est à Ramatuelle, on est dans le sud.
Et dans 10 minutes, ne ratez pas l'artiste Julien Cazard qui sera là à distance. Donc bon courage Bruno, parce que là tu m'en voulais sur ce que j'avais dit, mais là attention, l'artiste dans 10 minutes,
il sera là tout à l'heure.
Ouais.
On est avec Bruno. Bruno Genesio pendant 2 heures donc sur RMC pour mettre les choses à plat. On va parler de la saison de Rennes tout de suite. Xavier Grimaud nous rejoint.
Attends, avant de lancer Xavier, Jean-Louis, j'ai juste une question sur l'Olympique Lyonnais et ta relation, Bruno, avec Jean-Michel Aulas. Parce que moi, les critiques que j'ai émises aussi, c'est par rapport, comme je te l'ai dit, c'est un ressenti, ce que tu dégageais. Mais je trouve que, en effet, le président, quand il t'a placé là, il t'a maintenu quand même. Mmh. Donc, c'est une preuve de confiance pendant 3 ans et demi à Lyon. Je trouve que il a pas dégagé cette force de caractère que tu pouvais avoir, comme tu me l'expliques, en interne. Tu vois, et puis l'humiliation à la fin, parce qu'à la fin, quand même, ça c'est la séparation, elle s'est mal passée quand même.
Alors là, sur la dernière conférence de presse, il y a eu un gros malentendu entre ce que nous on a ressenti et ce qui a été perçu par l'extérieur. C'est-à-dire que moi j'ai eu plein de retours, comme tu dis, c'était une humiliation, c'était. Alors que l'objectif du président à ce moment-là, c'était certainement pas de m'humilier, au contraire, c'était de me défendre, c'était d'aller contre les critiques, etc. Mmh. Sauf qu'on a été à un moment donné un peu pris de court, faut le reconnaître, par une élimination qui nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. On est allé très vite devant les médias, trop vite à mon goût, mais c'était pas son objectif de m'humilier comme ça a pu être perçu, bien au contraire.
D'accord.
Et il m'a toujours protégé en interne comme en externe. Et si je suis resté 3 ans et demi, il fait partie des personnes qui ont fait beaucoup pour que je puisse tenir 3 ans et demi dans un club comme Lyon où il y a des exigences très très importantes.
Et vu que tu es très attaché à ce club quand même, quand tu as passé joueur, entraîneur adjoint, et voilà, tu es resté très longtemps, est-ce que dans un futur, on sait jamais, tu aimerais bien y revenir?
Non, je pense pas que ça soit une bonne idée. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai dit, des choses bien, des choses moins bien. Lorsque j'ai dit au président que je m'arrêterais en fin de saison, c'était à 5 ou 6 matchs avant la fin de saison. C'est parce que j'avais bien analysé tout ça et que je sentais très bien que ça devenait beaucoup trop difficile, non pas pour moi, mais pour l'équipe, même pour les joueurs, de jouer dans ce contexte-là. Et que pour l'institution, c'était la meilleure chose à faire. Donc j'ai pris cette décision. Pas trahir de secret, mais je peux vous dire que le président a essayé de me convaincre de changer d'avis.
Ah oui.
Je n'ai pas changé d'avis et je pense que pour le club et pour moi, ça a été la bonne décision. Et le regret que j'ai, c'est que quand je suis parti, je lui ai dit, c'est certainement le moment où je me sentais le plus à l'aise dans mon rôle d'entraîneur. Parce que tu l'as dit, j'étais un jeune entraîneur qui a débuté dans un club avec des exigences très très importantes. Donc c'est vrai que j'ai certainement fait des conneries, même si j'ai fait des choses bien aussi. Mmh. Et que je me sentais, au bout de ces 3 ans et demi, peut-être dans le meilleur moment pour moi pour entraîner Lyon. Mais voilà, c'est la vie d'un club.
Et aujourd'hui, t'es plus le même entraîneur. Comment? T'as progressé.
Oui, je pense.
Tu le dis, tu l'as dit tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que je te parle.
J'ai encore des choses à améliorer, mais je pense que j'ai progressé.
Alors derrière cet épisode lyonnais,
je pense que Bruno, avec la discussion, tu avais bien fait, parce que moi, le président m'avait proposé de re-signer 2 ans, et puis à la fin, tu sais, il m'a viré. Alors, il n'y a rien à comprendre.
Ce qui n'a rien à voir dans l'histoire.
De partir.
On va reprendre le fil des choses et revenir sur la saison rennaise. Avec Xavier Grimaud, notre correspondant toute l'année qui assiste à vos matchs, à vos conférences.
Salut Xavier.
Salut messieurs. Bonsoir Bruno.
Alors, bonsoir Xavier.
Fais-nous quelques rappels de 2-3 éléments forts de la saison rennaise.
Oui, alors cette saison, elle est déjà pour beaucoup à Rennes une grande réussite dans le jeu et puis dans les émotions vécues, notamment au Roazhon Park, donc ce qui est sans doute déjà beaucoup. Elle est aussi dans les chiffres. Rennes a battu son record de points du club dans son histoire, record de victoires sur une saison, record de buts marqués sur une saison, 101 buts marqués à toutes compétitions confondues. Alors après, concrètement, si on la reprend chronologiquement, la saison de Rennes, elle n'a pas été linéaire. Le début de saison, il est plutôt mitigé. Il y a notamment 3 défaites de suite début septembre, dont une à Marseille, qui déclenche pas mal de choses. L'affirmation des idées de jeu de Bruno Genesio et de son staff, qui seront suivis par les joueurs, et l'émergence semaine après semaine d'un jeu et d'une équipe qui va être très performante. Souvenez-vous de cette série des 13 matchs sans défaite, 10 victoires, 3 nuls à l'automne, avec de grandes victoires face à Paris, face à Lyon, le parcours en Conference League. C'est la période où Gaëtan Laborde enchaîne les buts et on découvre le talent et la classe de Lovro Maier, hein, notamment. À ce moment-là, Rennes joue bien, impressionne plutôt tout le monde, puis arrive un coup de mou avant Noël avec des défaites face à des concurrents, Lille, Nice, Monaco, qui vont un peu calmer les louanges. Rennes réussira à reprendre sa marche en avant de la gagne au printemps avec un jeu très collectif, celui de l'automne qui semble même encore amélioré, de nouveaux festivals offensifs. On pense à celui à Lyon, bien sûr, il est marquant avec la victoire 4-2. Et Rennes qui enchaîne notamment grâce à Bourigeaud et Martin Terrier qui prend une autre dimension. Alors en Ligue 1, Rennes, il est troisième début avril, d'où les rêves de Ligue des Champions. Il ne tiendra pas la distance, il se jouera même à se faire peur avec la défaite à Nantes à deux journées de la fin. Finalement, ce sera une quatrième place au bout du bout avec l'égalisation de Guirassy. Quatrième place, c'était dans les objectifs du club et au terme d'une saison qui a quand même été souvent spectaculaire.
Saison spectaculaire, quatrième place, mais 12 défaites aussi cette saison. Alors, est-ce que c'est une pleine réussite cette saison rennaise, Bruno?
Non, pour moi, non. Je peux pas le dire. Je peux dire oui par rapport aux objectifs fixés de début de saison, qui étaient d'être européen pour la cinquième année consécutive, ce qui est pour un club comme Rennes très très important pour s'installer dans le haut de tableau. Mais sur ce qu'on a fait, j'espérais mieux. J'espérais mieux parce que je pense qu'on a fait des très très bons matchs, mais on a manqué à des moments clés de la saison de maturité, j'allais dire d'intelligence, c'est peut-être pas le bon mot. Mais je pense que les 12 défaites qu'on a eues, on aurait dû en transformer peut-être 5 en match nul, qui nous aurait permis d'être sur le podium, voire peut-être d'être second. Je pense au match à Paris, par exemple, où on est à 0-0, on fait plutôt un bon match. On attaque à 8 à la 94e pour essayer de gagner le match, et on perd 1-0. Mais d'un autre côté, je peux pas reprocher à mes joueurs d'avoir fait ça, puisque je leur demande, avant chaque match, à l'entraînement, on travaille comme ça, de prendre des risques, d'attaquer, tout en gardant bien sûr des équilibres. Donc je peux pas non plus derrière me plaindre que mon équipe a pris trop de risques pour essayer de gagner le match à Paris.
Est-ce que les matchs que t'as perdus c'est parce que t'as pris trop de risques ou par moment il y a une forme de décompression?
Un petit peu des deux. Je pense que par moment on a pas su gérer un score de nul, par exemple 0-0 à l'extérieur à Paris. C'est vrai que sur le coup on peut se dire on aurait pu gagner, mais finalement si on fait 0-0, bah c'est bien,
c'est pas mal.
Là on perd 1-0 à Lens, c'est pareil, on est à 0-0, c'est un match très moyen de la part des deux équipes. On prend un but sur la fin parce qu'on n'est pas très concentré. À Clermont, on doit mener 3-0, on n'est pas efficace, on perd 2-1. Donc il y a un peu les deux. Il y a à la fois parce que par moment on a pris beaucoup trop de risques en fin de match et on s'est déséquilibré, et par moment on a manqué de caractère, c'est-à-dire que quand tout s'est bien enchaîné, ça a bien roulé. Et puis sur certains matchs, quand il y a eu un petit grain de sable qui s'est mis dans notre machine, et ben on a un petit peu lâché mentalement.
Tu vas réussir à me donner raison quand même.
Non, mais sur certains points.
Tu as dit caractère, oui, personnalité, tu vois. Non, mais c'est bien.
Mais ça veut pas dire que je suis le seul responsable et que c'est moi qui donne ça.
Mais bien sûr, bien sûr.
Mathieu, sur le jugement de la saison rennaise, t'es d'accord avec Bruno?
Je suis assez d'accord avec Bruno, et de temps en temps à la télé, je le disais, moi j'ai en tête le match à Nice, où en fait match nul. Et après ce match-là, je dis moi à l'antenne, je pense que Rennes a manqué un peu d'ambition sur ce match-là, parce que pour moi ils peuvent le gagner. Ils doivent aller chercher les 3 points et s'affirmer. Quatrième place, c'est vrai, quand tu fais le bilan au démarrage, tu dis oui c'est bien, c'est une belle saison. Mais avec le jeu proposé, l'équipe qu'ils avaient, et je persiste et chigne, ils doivent être dans les 3 premiers. Après, concurrencer le PSG, c'est compliqué. Concurrencer Marseille, c'est pas toujours simple. Mais ils nous ont quand même régalé souvent cette année. J'ai vu beaucoup de matchs très excitants. Et j'aurais aimé qu'ils soient les 3 premiers. Donc il manque encore, il a dit Bruno, quelques points. 2-3 joueurs peut-être majeurs qui vont apporter à un moment donné cette stabilité ou ce dépassement de fonction qui va te faire gagner 1 point par-ci, 2 points par-là pour accrocher la Champions. Mais pour Rennes, le plus important, c'est d'être encore une fois en Coupe d'Europe. Et l'année prochaine, moi, j'aimerais bien que ce club soit encore plus ambitieux et dise, voilà, on veut jouer à la Champions.
Mathieu, qui est le meilleur entre, t'as eu les deux, entre Christophe Galtier et Bruno Genesio?
Non, j'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est deux coachs complètement différents.
Alors,
moi,
j'ai eu en adjoint tous les deux.
On n'est pas sur Amazon.
Je suis pas avec Pascal Duprat, là.
Laisse Pascal Duprat où il est. On sait pas en ce moment.
Il est pas sur Amazon non plus.
Non, il y a plus
sur RMC aussi.
Non, je vais être honnête. Et je vous l'ai dit la dernière fois, Bruno et Christophe, j'ai eu les deux en adjoint à Lyon. Et après, j'ai eu Christophe comme coach à Saint-Etienne quelques mois, et Bruno, je ne l'ai pas eu en numéro 1. Donc déjà compliqué les comparer en tant que numéro 1. Maintenant, c'est deux personnalités complètement différentes.
Oui.
Christophe a beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité.
Ça, on t'a pas attendu pour s'en rendre compte, Mathieu. Si
Mais vous me demandez mon avis. Sinon, je parle plus, je me remets en place, je coupe le micro. Et Bruno, plus dans la relation, dans l'affectif aussi. Je pense que Bruno est meilleur tacticien. Et je pense que Christophe est meilleur meneur d'homme.
Voilà, très bien. Voilà. Alors, on en reparle en deuxième heure.
À quand le tandem Genesio Galtier, hein?
Ah bah du coup ça
serait compliqué, tu peux, là maintenant tu peux plus avoir,
ça va être dur,
ça fait Jürgen Klopp quoi.
Au PSG, hein, écoute,
il t'a pas parlé de Jérôme?
Non.
Parce qu'en ce moment, Jérôme, il est sur Christophe.
Non,
il a attaqué le dossier, là.
On en dira un mot à 19h et puis on a plein de questions sur. On a plein de questions aussi sur l'avenir de Bruno, sur l'avenir de certains joueurs à Rennes pour la saison prochaine. On continue donc nos deux heures spéciales avec Bruno Genesio sur RMC dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Rotten, la grande explication.
19h03 exactement sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, la deuxième heure de Rotten sans flamme exceptionnelle. Et oui, sur le lieu de vacances de Bruno Genesio qui est bien là, encore une heure. On va parler de Rennes, on va parler du Mercato, on va parler des entraîneurs français, on va parler avec les auditeurs aussi qui vont poser des questions à Bruno directement, certainement des supporters de Lyon ou de Rennes. On est toujours bien sûr en compagnie de Pascal Olmeta, qui a pris une bonne charge par Julien Cazard tout à l'heure. Franchement, c'était marrant.
Non, mais
Mathieu Bonnemère, ouais, et Jean-Louis Tour. Et si vous arrêtez la première heure, c'est pas bien. On vous le dit tous les jours. Surtout là, aujourd'hui, c'est pas bien du tout. Donc, vous pouvez la réécouter en podcast. Mais à partir de 20h, parce qu'on est encore là, une heure.
Oui, et il y a plein de choses. Donc, dans cette deuxième heure, alors déjà, on remercie de nouveau la cabane bambou à Ramatuel.
Toi, tu dois te faire inviter. Portes. Tu vas te faire inviter.
Non, mais c'est important de dire merci aux gens qui t'accueillent.
Bon, c'est vrai, la cabane bambou, on aurait aimé tester la nourriture.
Non, mais après,
c'est sûr. Donc, moi, je reviens fin juillet jusqu'à fin août. Donc,
alors après, voilà. Notez quand même notre professionnalisme. Si Bruno nous avait dit, je suis en vacances en Bretagne, dans le Nord,
puis Bruno, vu que le stage, bon, il est à Saint-Tropez d'avant saison avec les joueurs de Rennes.
Il se trouve que ça a rabattu. Bon, on a fait l'effort, hein, c'est le boulot.
C'est
dans cette deuxième heure, donc il y aura le quiz tout à l'heure à 19h45. Vous pouvez vous inscrire bien sûr au 32-16 ou en envoyant top par SMS au 732-16. Julien Cazard sera de retour. À 19h30, on vous laisse Bruno Genesio au 32-16. Que vous soyez supporter de Rennes, supporter de Lyon, supporter du foot français en général, vous pourrez poser vos questions.
Du PSG, hein.
Ah, il est peut-être sur les tablettes du PSG, parce qu'effectivement, il n'a plus qu'un an de contrat.
On nous a dit, c'est un entraîneur qui a encore un an de contrat, et peut-être entraîneur français.
Et puis, on a des questions Mercato, supporter René, il fait une tête là, Bruno, quand on dit ça. Mais on va débattre tout de suite autour des entraîneurs français.
Drapeaux, rubans tricolores et étiquettes fabriquées en France se multiplient.
Il y en a plein d'exemples d'entraîneurs français qui font très bien leur travail et qui sont pas mis en avant parce qu'ils ont pas la carte.
Le drapeau français, c'est un peu leur fierté.
Parfois, il y a des entraîneurs français qui travaillent très bien et le travail de ces entraîneurs-là sont pas mis en avant.
Une marque française, peut-être une de qualité, quelque chose de spécial.
Parce que dès qu'il y a un entraîneur étranger qui arrive, c'est toujours extraordinaire, tout va être révolutionné.
Il devrait m'appeler peut-être Ramirez ou je sais pas, Sanchez ou.
Le logo français, c'est très important.
Les entraîneurs français sont sous-cotés.
Vive la France!
Alors, au moment où, dans l'actualité, on parle d'un entraîneur français qui pourrait peut-être aller au PSG, Christophe Galtier, on profite de votre présence, donc Bruno, pour relancer ce débat. Est-ce qu'un entraîneur français peut réussir dans un grand club comme au PSG? Les entraîneurs français sont-ils sous-cotés? Alors, on a entendu quelques extraits de ce que vous avez dit, notamment en 2016. Vous déploriez l'image, un peu ce dont on a parlé en première heure, et vous avez dit, je devrais peut-être m'appeler Ramirez ou Sanchez, j'aurais peut-être une autre image et on serait peut-être plus tolérant avec moi. Vous pensez toujours que les entraîneurs français ne sont pas traités comme les entraîneurs étrangers ?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que si c'était à refaire, je ne dirais pas ça.
Ah, d'accord.
Parce que ça a été perçu comme un manque de respect vis-à-vis des entraîneurs étrangers, ce qui est loin d'être le cas. Parce que je respecte beaucoup les entraîneurs étrangers. Il y en a plein que j'apprécie énormément dans le championnat français. Lorsque j'ai eu le trophée, j'ai d'ailleurs souhaité parler de Mauricio Pochettino, qui a été champion. Parce que je trouve que lui aussi a eu un traitement infâme, alors qu'il a gagné le titre de champion. Alors on peut me dire, oui mais c'est Paris, mais je sais la difficulté de gagner des titres, même quand vous avez des grands joueurs. On l'a connu à Lyon, on a gagné 7 titres de suite à Lyon, avec des grands joueurs, mais il y a toujours de la difficulté, et c'est toujours très difficile de gagner des titres. Donc je ne redirai pas ça, parce que ça a été perçu comme un manque de respect vis-à-vis des entraîneurs étrangers, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce que je voulais dire par ça, c'est que très souvent, encore une fois, c'est un problème d'image, c'est un problème d'a priori sur l'entraîneur français qui n'est pas capable d'entraîner une grande équipe, d'entraîner des grands joueurs. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, Jérôme, de gérer des joueurs difficiles. On a cette image-là de l'entraîneur français. Peut-être que nous, on a une responsabilité aussi. Peut-être que nous, on a une responsabilité parce que on s'exporte moins bien.
C'est ça.
Parce qu'on parle pas assez les langues étrangères. Aussi parce qu'on n'est pas suffisamment solidaire entre nous. Parce que moi, je peux vous dire, je suis allé en Chine. J'ai vu ce que c'était la solidarité entre les entraîneurs étrangers. Quand il y avait un entraîneur portugais ou espagnol qui se faisait virer en Chine, la première chose qu'il faisait, il conseillait le président de prendre un entraîneur portugais ou un entraîneur espagnol. Et nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on se tire la bourre entre les entraîneurs français. Parfois, pas tous, parfois. Donc peut-être qu'on a une responsabilité, qu'on a des responsabilités là-dessus. Mais il y a des très bons entraîneurs étrangers. Mais il y a aussi des très bons entraîneurs français.
Mais il y a quand même une nouvelle vague. Alors moi, je suis totalement dans ton sens aujourd'hui. Parce que je trouve en effet qu'on ne met pas assez en lumière certains qui ont fait un énorme boulot, ne serait-ce que cette année. Tu vois, Julien Stéphan a été fantastique avec Strasbourg.
Antoine a fait une super saison.
Antoine.
Il finit 8e ou 9e.
Exactement.
Il a le même effectif que l'année dernière.
D'ailleurs, sur Antoine Comboiré, vous êtes d'accord tous les deux. Okay. Vous l'auriez donné le titre de meilleur entraîneur de l'année.
J'ai voté pour Antoine. Donc, voilà. Francaise de Lens qui a fait un très bon travail.
Non, mais ça, c'est la nouvelle vague, Bruno. C'est normal. Et toi aussi. À l'arrivée, tu restes un jeune entraîneur.
Oui.
C'est ta 5e année, je crois, en numéro 1. Donc ça reste un jeune, et c'est pour ça peut-être que au bout d'un moment vous inscrivez dans la durée, et que là le respect va arriver un peu plus là maintenant, en disant tiens, ben écoute, Genesio, Stéphane, qui lui, ça doit être sa 3e, je crois, en tant que numéro 1, 3e ou 4e, Francaise, c'est sa 3e.
Je te coupe, oui. Mais si on prend par exemple l'exemple de Laurent Blanc,
oui,
quand il était à Paris, il a gagné tous les titres nationaux possibles, les 3 ans ou les 4 ans, je ne sais plus combien il a fait. Il s'est fait fracasser. Parce qu'il n'a pas gagné la Champions League.
Mais pourquoi il s'est fait fracasser?
Parce qu'il a fait un système contre City à 5, alors que les 25 premières minutes du match sont très bonnes, et s'il marque, peut-être il gagne.
Mais il y a ça, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est ça. C'est moi, je suis contre ça. Parce que ça aurait été un entraîneur étranger, et tu le sais, Tourelle, pour parler du PSG, Pochettino, Emery, ils se sont fait fracasser. Hein. Pareil, c'était des entraîneurs étrangers. Je pense que Laurent Blanc, c'est un problème. Appartenance au club, identitaire, et les gens se retrouvaient pas à travers Laurent Blanc. À Paris, c'est exactement ça. Moi, je suis sur place, je le sais, ce club, je le connais. Alors pas par cœur, parce que j'ai pas la science infuse, mais je le connais très bien quand même. Je me sens très proche de ce club, et je trouve que les gens ont été durs envers Laurent Blanc, parce que quand il parlait du PSG, il disait jamais on, nous, ou je sais pas quoi, c'était toujours le Paris Saint-Germain. Tu vois, tu sentais qu'il y avait quand même une barrière, et j'ai peur de ça avec Galtier et Zidane, moi. Vraiment, si tu les ramènes, que ça soit la même chose. Au bout d'un moment, qu'on retienne pas que sa qualité de technicien.
Le plus important pour un entraîneur, c'est quand même de gagner.
Oui.
Tout à l'heure, d'ailleurs, tu m'as dit, t'as pas gagné de titre.
Non, mais c'est vrai. Ça.
Oui, mais c'est quand même de gagner.
Oui, mais à part,
il a gagné. Avec la manière.
Et avec la manière, en faisant du jeu, en marquant des buts, avec un style de jeu.
Qu'il avait imposé.
Ouais, 4 ans. Mais
c'est bien déjà.
Qu'on n'a pas retrouvé depuis.
Mais pendant les 4 ans où il a gagné, il y avait toujours quelque chose à redire, même en gagnant les 4 titres.
Surtout la dernière année.
Oui, surtout la dernière année.
Les premières années, franchement, il y a eu beaucoup de bonnes choses.
Et c'est ça que
tu mets en avant.
Mais par contre, moi, Tourelle, tu parlais de Tourelle, c'est un entraîneur que j'adore. Kovac, qui était à Monaco, c'est un entraîneur avec
magnifique
qui
aussi,
j'avais très très bonne relation et que je trouvais très intéressant. Voilà, il y a plein d'entraîneurs étrangers aussi que j'adore, qui sont venus en France. Bien sûr, il y a ceux qui sont en Angleterre ou en Espagne que je respecte beaucoup. Donc je veux pas faire de scission entre entraîneurs français et entraîneurs étrangers. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose. C'est l'image qu'on colle à une catégorie d'entraîneurs ou une catégorie de personnes. On les met dans des cases. Et quoi qu'il fasse, on les sort pas.
Oui, c'est de votre faute aussi. C'est de votre faute, les entraîneurs français, parce qu'à l'arrivée, tu disais, on s'exporte pas. Oui. Parce qu'à part Claude Puel, qui est allé 2 fois en Angleterre.
Derniers. Il y a eu Gérard Rouillet,
Rudy Garcia.
Ça, c'est une autre génération.
Oui.
Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Gérard, et il nous manque, bien sûr, pour Arsène Wenger, qui a fait un énorme travail à Arsenal. Après, il y a eu l'expérience Rudy Garcia à Rome. Qui est un petit peu voilà, au début c'était très bien, mais à la fin c'était catastrophique. Claude Puel 2 fois, mais sinon à part ça, franchement c'est compliqué.
Ouais, non, mais c'est vrai, on a un problème avec ça, c'est sûr.
Et je peux me permettre juste un truc.
T'as envie d'y aller, toi?
À l'étranger?
De tenter? Bah oui.
J'y suis allé.
J'étais en Chine.
Oui. Non, on parle d'un pays de foot.
Je comprends.
On parle pas d'un projet de vie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut? Et juste, je donne mon avis du côté journaliste, puisqu'on parle de l'image et de savoir se vendre aussi. C'est, je trouve, moi, les entraîneurs français, ça a peut-être changé un peu, donnent moins d'interviews pour parler de foot, contrairement aux entraîneurs étrangers qui en font beaucoup et qu'on trouve parfois peut-être un peu plus passionnant. Pendant longtemps, les entraîneurs français, vous avez seulement accordé ça à votre vestiaire en disant le foot, on en parle en interne. Oui,
est-ce que les interviews des entraîneurs français étaient orientées vers ça? Si je prends mon exemple, les dernières années, À chaque fois qu'on vient me faire une interview, c'est pour me parler des problèmes avec les supporters lyonnais. Pour me parler des problèmes avec Daniel Riolo ou Jérôme Rotten. Pour me parler des problèmes que j'ai eu là.
Pas de sportif.
Mais on ne parle pas de jeu. Et moi, si on parle de jeu, je veux bien répondre. Mais on parle que des problèmes que j'ai eu. Tous les entraîneurs peuvent avoir des problèmes avec des consultants, avec des supporters, avec des dirigeants, avec les joueurs, etc. Et inversement, avec un entraîneur étranger, la première chose qu'on fait, enfin que vous faites, c'est de parler de jeu. Quelle est ta philosophie? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quel système de jeu, etc. Et du coup, bah, ça donne une légitimité à l'entraîneur étranger, à juste titre.
Alors, on va continuer le débat avec Yacine qui est avec nous au 32-16 dans ce Rotten sans flamme exceptionnel. Salut Yacine.
Oui, bonsoir l'équipe. Bonsoir.
Salut Yacine. Bonsoir. Bienvenue Yacine.
Oui, vas-y, donc, Yacine. Oui, allez-y.
Vas-y, tu peux poser.
Non, je disais, réagir, c'est comment dire, par rapport à ce que disait M. Genesio, moi, ce que j'ai retenu ces dernières années, vous parliez tout à l'heure de Laurent Blanc, c'est qu'on ne va pas se mentir, même sous l'époque Carlo Ancelotti, parce que ça a été l'un des premiers gros coachs étrangers à venir, bon, il s'est fait découper. On ne va pas se mentir. Et Laurent Blanc, également, on ne va pas se mentir, il a hérité du travail de Carlo Ancelotti aussi. Le travail de Jean-Louis Gasset, on ne l'a pas assez mis en avant. Et là,
c'est
on en
un tandem,
un petit peu marre.
Ça, c'est...
Oui, mais là, on en avait un petit peu marre de Laurent Blanc, c'est que, par exemple, là où ça vraiment, il y a une scission complète, ça a été le match contre City où il a improvisé un 3-5-2 non maîtrisé juste avant le début, juste avant le match, et ça, c'était pas possible. Quoi.
Ouais,
tout
ça
par rapport à M. Serge Aurier. Bon, bref, peu importe. Là où entre guillemets, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que pour moi, l'entraîneur étranger. Déjà dans les interviews, on sent, enfin, c'est, on va dire, c'est des interviews plus fournies. Et puis, on va pas se mentir, en France, que ce soit Sampaoli ou autre, hein, les mecs, Bielsa, il s'est fait défoncer comme pas possible. À chaque fois, les mecs, c'est voilà, on cherche toujours la petite bête. Alors que, au final, ils ont prouvé ailleurs. Emery,
ouais, Bielsa, tu peux pas dire que Bielsa s'est fait défoncer en France quand même.
Si.
Il y avait beaucoup
Souviens-toi la une de l'équipe. Ah, je me souviens très bien.
Non, mais
quand il est arrivé à Lille, ça commence à bien faire. Quand sa mère venait de décéder, moi je me souviens très bien. Ça, c'est entièrement vérifiable parce que il était en retard. Il était en retard pour son poste d'entraîneur. Sa mère venait de décéder et la une c'était ça commence bien. Voilà, ça commence bien.
Bon, après, ce qu'il a fait à Lille, c'est pas forcément un truc à mettre en avant et qui met en avant son travail de technicien, parce que moi, je respecte Bielsa, mais on peut pas être dithyrambique sur Bielsa, sur ce qu'il a fait à Marseille, par exemple. Tu vois, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi.
Tu comprends, il faut prendre l'ensemble d'une carrière. Si là, on parle par exemple de Pochettino, alors on verra qui sera le prochain coach, mais demain c'est Zidane ou autre, mais Zidane, je pense qu'on va lui chercher un peu plus la petite bête qu'à Christophe Galtier, par exemple. Moi perso, j'en veux pas.
Mais si c'est aucun des deux, c'est pas plus mal.
Oui, mais moi perso, j'en veux pas. C'est même pas en tant que Marseillais, ça rien à voir. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, ça n'a rien à voir. Je parle en termes de compétences techniques. Moi, je pense pas que Christophe Galtier, il soit capable de dire à Neymar, je ne veux plus de toi, t'es plus performant, dehors.
Bah, je pense,
moi, c'est juste ça qui m'intéresse.
Bah, je pense que c'est la qualité d'un entraîneur aussi. Et Bruno me répondait à ça tout à l'heure. Dans le vestiaire, nous, on n'est pas au quotidien. Mais je pense que quand tu gagnes des titres, Christophe a quand même été champion de France avec Lille. C'est que, au d'un moment, des joueurs de caractère et forte personnalité, il en avait à gérer à Lille. Et il a pu les recadrer quand il fallait. Donc, un Burak Yılmaz, par exemple, qui est, à mon avis, un joueur difficile à gérer, c'est la même chose pour certains joueurs au PSG.
Alors, merci à Yacine d'être venu.
Merci, Yacine.
Mon avis,
en tout cas,
donc, oui, vous voulez enchaîner?
Alors,
j'ai encore plein de questions pour Bruno, notamment sur son avenir. Alors, Bruno, où en est cette histoire de prolongation de contrat?
On avance, on est en discussion.
C'est votre priorité de continuer. C'est votre priorité de continuer à Rennes et de prolonger.
Oui, c'est ma priorité pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un club où je me sens très bien parce qu'on travaille chacun dans son domaine. Avec Florian Maurice, Olivier Cloarec et j'oublie pas bien sûr Nicolas Olbeck qui est plus notre président mais qui est encore
dans
notre cœur. Chacun est à sa place, on travaille ensemble, on est parfois en désaccord mais ça se passe toujours par des discussions, du dialogue et c'est vraiment un confort de travailler dans ces conditions-là pour un entraîneur d'avoir un directeur sportif qui est à la fois compétent et quelqu'un qui est très proche de moi. Donc ça c'est la première raison. La deuxième c'est que j'ai un groupe qui est encore perfectible, avec qui on a fait une très très bonne saison et j'ai envie encore de les accompagner pour faire encore mieux si possible. les faire progresser individuellement et collectivement. Et que la troisième raison, c'est que j'ai une relation privilégiée et particulière avec le propriétaire du club, et que ça aussi, pour moi, ça fait partie des valeurs que j'apprécie. Voilà, je dis toujours qu'il y a, il y a trois choses très importantes pour faire des choix. Il y a le projet sportif, il y a le projet humain, il y a le projet financier. Voilà, et chacun fait ses choix par rapport à différents arguments. Et moi, j'ai envie de rester au Stade Rennais pour tout ce que je viens de vous énumérer.
Donc, est-ce que tu es prêt à rester avec ton contrat, donc encore un an, ou tu veux prolonger ?
Non, j'ai envie de prolonger. D'accord. On est en discussion. Je vais être très franc. Hein. J'ai eu des propositions pour aller dans d'autres clubs avec des conditions qui seraient nettement supérieures à celles que j'aurais au Stade Rennais. Je les ai refusées. Voilà, aujourd'hui, on est en discussion.
Est-ce que vous avez demandé des garanties?
Oui,
que l'équipe va être renforcée, bien comme sûr. Ça a été le cas sur les mercato.
Bien sûr. Pour ça que je parle du projet sportif. Il y a toujours le projet sportif, le projet humain, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille. Et évidemment qu'il y a aussi un projet.
Et vous avez obtenu ces garanties?
Comment?
Vous avez obtenu ces garanties?
Oui, bien sûr. Bien
donc
sûr.
C'est fait quasiment à 80-90%.
Ça va faire, oui, je pense.
Et donc ça veut dire que le Stade Rennais sera ambitieux de nouveau sur le prochain
bien
mercato.
Sûr, on a un propriétaire qui est très très ambitieux, qui est passionné de foot et du Stade Rennais. J'ai des dirigeants, Flo le premier, qui est aussi très ambitieux, il vient de Lyon, un club où on a l'habitude d'avoir des objectifs très élevés, de les remplir, de gagner des matchs. Moi-même, si je suis venu au Stade Rennais, c'est aussi pour ça. Le club progresse, c'est la cinquième année de suite qu'on fait la Coupe d'Europe, c'est pas rien, ça commence à parler dans l'histoire du oui. club. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai envie de m'inscrire encore... dans la durée.
Alors c'est bien d'avoir ces éléments en tête avant de parler mercato, puisqu'on a des questions aussi sur le mercato.
Enfin, moi j'ai hâte d'entendre les joueurs de caractère qui arrivent.
Pascal, il est là.
Alors c'est
vous. Toi, êtes... il vous l'a dit.
Oui. Alors attendez, j'ai une annonce à faire puisque donc les événements se bousculent sur RMC. Bruno Genesio pendant 2 heures dans Rotten sans flamme. L'after à partir de 20h sera en direct de Marseille. L'after est dans le pré, au plus près des clubs amateurs. Et puis événement à 20h, juste avant le début de l'after, interview exclusive RMC Sport avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État évoquera certains sujets liés au sport, le passeport, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane peut-être à Paris, les violences dans les stades. Interview à ne pas rater donc tout à l'heure, un rendez-vous exceptionnel sur RMC. Nous, on revient avec nos questions mercato sur le Stade Rennais. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions à Bruno Genesio dans le ring des supporters tout à l'heure à 19h30. A tout de suite.
RMC, 18h20. Rotten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Rotten, la grande explication.
19h21 exactement sur RMC. Oui, on continue notre échange avec Bruno Genesio, bien sûr, avec Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer et Jean-Michel
Larquet.
Non, c'est Jean-Michel. Non, parce que je parlais avec Bruno de Jean-Michel Larquet juste avant.
On l'embrasse, capitaine.
Et bien sûr Jean-Louis Tour. On retrouvera encore des auditeurs dans 10 minutes,
exactement.
Bien sûr, qui échangeront. Avant de partir sur le thème du recrutement, moi, je voulais poser une question à Bruno. Pour ça que je parlais de Jean-Michel Larquet, parce que hier, il était en désaccord avec moi sur les rivalités qui existent. Pour moi, de voir un Marseillais entraîner le Paris Saint-Germain, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça n'est que mon avis. La question, je pense que toi, tu connais les rivalités entre Lyon et Saint-Étienne. Est-ce que si demain, tu as Saint-Étienne qui vient, Saint-Étienne en Ligue 1, bien sûr, pas en Ligue 2, qui vient te proposer un poste, tu es prêt à y aller?
Déjà, je pense pas qu'il viendrait, parce que pour ces raisons, ils savent très bien que le contexte entre Lyon et Saint-Étienne est difficile, et je pense pas qu'il viendrait me contacter. J'aurais énormément de mal à y aller. Mm-hmm. Mais une fois que j'ai dit ça, et c'est important de parler de rivalité, et je trouve que très très dommage que Saint-Étienne descende en Ligue 2, par exemple,
bien sûr.
Parce que c'est une histoire, c'est un grand club. Mais pour moi, lyonnais, non, je
c'est difficile. Ouais, voilà. Mais tu dis les dirigeants n'y pensent pas. Tu dis les dirigeants n'y penseraient pas.
Mais ils ne penseraient même pas.
Mais tu ne peux pas le savoir, ça. Bruno, ça évolue. Mais
s'ils y pensent, je ne pourrais pas.
Non, mais d'accord. Mais les Qataris, ils pensent à faire venir un Marseillais. Dire Christophe Galtier, j'en parlais hier, qui a été souvent, à juste titre.
À quoi ils ne pensent pas?
Je ne sais pas. Écoute, Pascal, j'en sais rien.
Mais parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Ouais. Après, eux, ils n'en ont rien à foutre. Mais après, c'est comme il dit Bruno. Saint-Étienne, Lyon, tu peux pas vivre. C'est pas possible.
Non, mais c'est bien de mettre ça en avant.
On a plein de questions mercato.
Bien sûr, oui.
Donc on a déjà entériné le fait que Bruno sera toujours entraîneur de Rennes la saison prochaine et qu'il va prolonger son contrat. Hein, c'est grosso modo ce qu'il nous a dit avant, même s'il y a des détails à régler.
Il a dit 90-99% même.
Alors, il peut y avoir pas mal de changements dans l'effectif rennais pour l'année prochaine. Déjà, peut-être le dossier le plus chaud, Naïef Aguerd. On parle d'un accord avec West Ham pour une grosse somme de 40 millions. Est-ce que les choses ont avancé? Est-ce qu'elles sont aussi avancées que ça? Et me dis pas, c'est Florent Maurice qui
c'est le travail
ça,
de Flo Maurice.
Je le voyais arriver.
Mais c'est vrai que, qu'il y a des discussions avancées concernant Naïef, qu'il a émis le désir de vivre une autre aventure aussi. Donc, dans ces moments-là, c'est toujours difficile de retenir un joueur. Donc, il y a de fortes chances que Naïef ne soit plus Rennes l'année prochaine. Après, dans quel club il ira? Ça, je peux pas vous le dire, mais il y a de fortes chances qu'il ne soit plus Rennes l'année prochaine.
Que, dans quel secteur, Bruno, plus pour visualiser un petit peu par rapport à une équipe qui fonctionne très bien cette année, mais qui est restée juste là, au pied du podium, dans quel secteur t'aimerais renforcer l'équipe?
Alors, je vous dirais pas tout, parce que c'est...
Non, pas tout, mais...
Déjà, le plus important, c'est de conserver le stature du groupe qui a bien fonctionné. Parce qu'on parle de Naïef, mais il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent être sollicités parce qu'ils ont fait une très grosse saison.
On a parlé d'Amari Traoré.
Martin Terrier, Bourigeaud.
Et Bourigeaud joue au Traoré aussi.
Voilà, Louvreau Maillère, Amari Traoré, à qui il reste plus qu'un an. Gaëtan, on peut être sollicité. Il faut s'attendre à l'être. Donc déjà, le plus important, c'est de pouvoir garder un maximum de joueurs qui ont composé cette ossature du groupe, parce que on a créé quelque chose. Moi, je crois beaucoup en la force d'un groupe. Évidemment qu'il faut des joueurs de talent. Si t'as les pieds palmés,
c'est
beau avoir une force dans le groupe, tu vas pas gagner beaucoup de matchs. Ouais. Mais les deux sont quand même très très fortement liés. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de se renforcer au poste où on va perdre des joueurs ou à des postes où on a des besoins, que ce soit quantitativement ou au niveau de la personnalité aussi. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'on a besoin encore d'un ou deux joueurs, à la fois de bons joueurs, mais aussi des joueurs qui vont nous amener cette mentalité encore plus de pas de compétiteurs, parce que j'ai beaucoup de joueurs compétiteurs, mais une personnalité qui peut, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, eh ben amener cette mesure sur le terrain et en dehors du terrain, parce que c'est dans les deux cas.
L'état d'esprit de compétiteur, comme tu dis, bien sûr que moi je mets pas en doute le fait de que tous les joueurs de Rennes, je parle de l'effectif et de toi et de ton staff, vous l'ayez, mais par contre l'amener des joueurs qui ont déjà gagné.
Oui.
Cette expérience-là est importante.
Qui ont déjà gagné, qui ont eu une expérience de Coupe d'Europe très importante. Parce que c'est dans les moments où ça marche très bien, par exemple, on a aussi besoin de ces joueurs-là pour tempérer, pour mesurer. Parce que parfois, on a tendance un peu à s'enflammer dans ces moments-là, et c'est un peu humain.
Ah, Mathieu l'a fait.
Et puis, dans les moments difficiles, à l'intérieur d'un match ou dans une série de matchs où ça va moins bien, eh ben, on a aussi besoin d'avoir 2-3 joueurs sur le terrain. Parce que nous, coach, une fois que le match a commencé,
toi, t'es impuissant.
C'est difficile, on attend la mi-temps ou les changements, mais... On a besoin d'avoir 2-3 joueurs qui sont capables aussi de tempérer,
de relever la tête,
les choses quand ça va pas, et on parlait tout à l'heure du match à Paris, peut-être d'avoir un gars qui dit oh, on reste en place.
Bon, tu m'as pas répondu sur le positionnement. Tu m'as dit oui, des postes clés. Donc c'est quoi? C'est un défenseur, un milieu, un
défenseur
attaquant
central.
Ouais, c'est du Père Lagarde. Mais
c'est sûr, un défenseur central de métier.
Dans les buts, ça reste comme ça.
On a une réflexion à ce poste-là aussi. On a au milieu de terrain, je pense aussi besoin. On a des très très bons joueurs, mais d'avoir un joueur peut-être d'un autre profil, avec un peu plus d'impact, notamment sur les matchs. On a vu que sur certains matchs où on s'est un peu fait rentrer dedans, on a eu du mal à répondre dans ce domaine-là. On veut à la fois un joueur intéressant.
Bruno, j'aime pas cette phrase-là. Attends, non, je reviens sur cette phrase-là. Tu me dis si on se fait rentrer dedans, donc en fait tu réponds par du physique. Bah, pas non, toi quand même, avec ce que tu nous as montré.
Non, mais il faut un joueur qui soit capable de jouer, mais aussi qui soit capable d'amener un peu plus d'impact. Voilà.
Donc, d'accord. Et juste dans tout ce que vous me décrivez,
il y a Danilo Pereira, si tu veux, qui va être sur les tablettes.
C'est trop cher pour nous.
Non, le profil, en revanche, de ce que vous décrivez derrière, c'est Denayer. Vécu européen, joueur d'expérience. Vous êtes dessus ou pas?
Ça, c'est Flo.
Il s'appelle Flo.
Et après, on a d'autres joueurs qui vont être des recrues.
Ils sont sur Denayer.
C'est Jérémy Doku et Kamaldine Souleymana. Ouais. Pour Jérémy, qui a quasiment pas joué.
Oui.
Et qui est quand même un joueur au départ, en début de saison, qui est un joueur très, très important pour l'équipe.
Et Souleymana.
Et Kamaldine Souleymana, qui lui aussi est un joueur très talentueux et qui a eu notamment une fin de saison difficile à cause des blessures. Donc, il y a aussi des joueurs qui vont
redynamiser le groupe.
Et qui ont été des gros investissements en plus.
Bruno, une question.
Comme Loïc Bassi.
Est-ce que tu discutes avec les agents de joueurs?
Non, c'est Florian qui discute avec les agents.
Mathieu,
bravo. On a chacun notre domaine. Hein.
Non, c'est très bien.
Et je pense que c'est pour ça que je me sens très à l'aise dans mon travail. Ouais.
Non, moi,
très important.
Mathieu, imaginons, t'es directeur sportif de Rennes.
J'aimerais bien.
Tu fais quoi avec cet effectif?
Très bien. Non, moi, je pense qu'il y a une réflexion sur le gardien dans un premier temps. Un, voire deux axios. Une sentinelle, alors voir si un peu il faut monter les jeunes joueurs, c'est-à-dire le gauche au cou, voir le placement de Doué à un moment donné qui joue 10 ou plus bas, la formation ou pas. Et moi, la question que j'avais à Bruno, c'est par rapport au système, puisque tu parlais de Souleymana et Doku, qui sont vraiment deux excentrés purs. Si les deux sont en forme, est-ce qu'à un moment donné tu vas rechanger ton système, c'est-à-dire que peut-être Terrier va partir, est-ce que Terrier va jouer dans l'axe, est-ce que tu passeras en 4-4-2 ou 4-3-3?
Je m'interdis rien, et c'est pour ça que c'est pareil, quand on parle de système, je préfère parler d'une animation que d'un système. Et aujourd'hui, pour moi, le système, quand on a le ballon, ça veut plus rien dire. Parce qu'on a des positions, on occupe des espaces, ça bouge.
Excuse-moi, je te coupe, mais on l'a vu à Reims, parce que c'est moi qui ai commenté là.
Tout à fait. Il a dézoné complètement.
Tout seul pendant 10 minutes et voilà. Il change le cours du match.
Et ça, c'est des choses que je demande à mes joueurs régulièrement, qu'on travaille en entraînement. Après, que quand on perd le ballon, on a une structure beaucoup plus rationnelle. Ça oui. Mais par contre, quand on a le ballon, j'ai plus envie de dire à mes joueurs, on est en 4-3-3, on est en 4-4-2. Donc, je m'interdis pas de changer ce système. Je pense que il y a des entraîneurs qui ont une méthode et qui sont on joue à 3 derrière, on joue en 3-5-2, etc. Moi, je préfère m'adapter aux qualités de mes joueurs et à ce que je vois la semaine à l'entraînement. Si j'estime que le meilleur système pour l'équipe, et je l'ai fait cette année avec l'arrivée de Lovro Majer, c'est en grande partie pour le mettre en évidence qu'on a joué en 4-3-3. Si j'estime que l'année prochaine le meilleur système c'est le 4-4-2 ou de jouer à 3 derrière, je le ferai et on le travaillera et on le mettra en place. Et je pense que c'est de plus en plus important aujourd'hui que les joueurs maîtrisent différents systèmes, soit d'un match à l'autre ou à l'intérieur d'un même match, parce que parfois c'est ce qui fait la différence aussi et qui surprend l'adversaire.
Ce qui rend ton métier intéressant, palpitant, passionnant.
Et vous allez pouvoir en discuter directement avec Bruno Genesio de son métier palpitant au 32-16, c'est le rendez-vous à 19h30 dans Rotten sans flamme. On va vous laisser poser les questions de votre choix à l'entraîneur du Stade Rennais qui est avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Bruno Genesio, Jérôme Rotten, la grande explication.
19h36 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme exceptionnelle en direct du lieu de vacances de Bruno Genesio. Bien sûr, toujours avec nous, bien sûr, encore une vingtaine de minutes. On est avec Pascal Olmeta, avec Mathieu Bonnemer et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on continue maintenant. Ouais. On va donner la parole aux auditeurs qui vont échanger avec Bruno directement.
Et juste avant de leur donner la parole, le quiz sera là comme tous les soirs. Ça s'appelle Rotten contre le reste du monde. Le but, c'est de faire perdre Jérôme. Donc tout le monde se ligue contre lui. Bruno, vous allez faire équipe tout à l'heure avec Mathieu, l'encyclopédie, et Pascal, qui a son style. Julien Cazard sera
Je pense que l'équipe, elle est pas assez forte encore.
Style, mais... Je suis gentil, ça va Pascal. Alors,
tu te rends compte ce que tu prends, toi, aujourd'hui?
Mais
entre Cazard et
j'étais gentil,
et
justement, j'ai essayé d'être élégant. Quand même. Ouais. Donc, Julien Cazard sera de retour.
Ta maison, reste
il y a des
vacances tranquilles.
Pascal, il va falloir qu'on s'en occupe.
Jérôme aura l'argent, Bastien.
Ouais, déjà, qu'ils me donnent ce qu'ils me doivent et après, je rendrai.
Alors, si vous voulez vous inscrire pour le quiz, vous envoyez top par SMS au 732-16. Il y a en plus un duo de bracelets, les interchangeables, à gagner. Ouais. C'est le moment où vous laisse la parole au
32-16. Tu t'améliores pas avec l'âge.
Mais non, ça va être pire en pire.
Le ring des supporters.
Paul est avec nous dans ce Rotten sans flamme exceptionnel.
Salut, Paul.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bienvenue Paul.
Bonsoir.
Bon bah tu peux parler directement avec Bruno Genesio, il t'écoute.
Ouais, alors je sais que mon temps est compté, je vais avoir 2-3 minutes, donc je vais essayer d'être court. On va commencer par les louanges.
Trois minutes, Pascal, il tient pas.
Ouais, mais j'ai aucun rapport avec Monsieur Genesio, donc je vais l'appeler Monsieur Genesio. Déjà, je tiens à le remercier pour toutes les émotions qu'il nous a données. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur coach qu'on ait jamais eu à Rennes, et je pense que je peux parler au nom de tous les Rennais. Il nous a apporté des choses qu'on n'avait jamais vues et qu'on espère revoir, évidemment. Et on sait que le foot, c'est rapide, ça peut vite tourner. J'espère que les supporters rennais s'en souviendront. Et j'espère que ça va continuer. Moi, j'avais une petite question pour le coach. Cette année, on a vu au final, avec un petit peu de recul, parce que on analyse maintenant un petit peu à froid, il y a eu plein de choses bien, il y a eu beaucoup de réactions parce que j'ai écouté depuis le début, c'était une top émission, et on oublie de dire que on s'est fait éliminer par les Leicester, c'est un scandale, et on a réagi. Donc moi, sur le caractère, J'adore ce coach parce que j'aime mourir avec mes idées et quand je le vois, j'ai jamais paniqué tout au long de la saison. J'ai adoré son interview après Nantes. Bref, c'est que des bonnes choses. Maintenant, dans un deuxième temps.
T'es un fan de Lionel Charbonnier, quoi. La question, elle est aussi longue que.
Ouais, elle est un peu longue, mais après, comme ça, je vais le laisser me répondre et puis je vais laisser la place aux autres auditeurs qui doivent être excités de pouvoir lui parler. Donc, cette année, on voit qu'on a un effectif au final qui est un petit peu court. Parce qu'on a eu beaucoup de chance au final aussi. On a eu très peu de blessures. On a su que Hagard partait à la CAN. On l'a payé un petit peu aussi, je pense. Donc moi, la question, elle est très simple. Est-ce que c'était un souhait du coach de fonctionner avec au final 14-15 joueurs? Parce que les jeunes, bah, c'est les jeunes, on en forme, on en sort. Mais des joueurs d'expérience, on avait 14-15. Il y a eu des blessures. Mais est-ce qu'on n'a pas loupé le mercato hivernal où on aurait pu ajuster deux, trois petites choses? Et l'année prochaine, est-ce qu'on reste avec 3-4 défenseurs où on double tous les postes? Donc peut-être 4 défenseurs et pas que 3. Et aussi un milieu de terrain, parce que quand Flavien Tay, il a été absent, on a vu aussi une petite baisse à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout simple. Est-ce que c'était une volonté de sa part?
Paul. Vas-y Bruno, bon courage.
Allez. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que on est un club formateur et où on doit aussi... intégrer des joueurs, non pas parce qu'ils sont formés au Stade Rennais, mais parce qu'ils sont bons. Et on a la chance, j'ai la chance d'avoir beaucoup de très jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualités de footballeur et une très bonne mentalité. Donc c'était, oui, un choix de les intégrer et forcément peut-être d'avoir un petit peu moins d'expérience dans l'équipe. Concernant l'année prochaine, on doublera les postes parce qu'on est qualifié en Europa League et on sait très bien que la Coupe d'Europe... prend beaucoup d'énergie avant et après. Donc on va doubler les postes, mais on va continuer de garder un certain équilibre dans le groupe avec des joueurs plus expérimentés, mais aussi des jeunes joueurs. Je pense à Mathis Tel, à Désiré Doué, à Leslie Ogochunkou, Adrien Truffert, qui est encore un très très jeune joueur aussi, et d'autres que j'oublie. Mais voilà, c'est important aussi, quand vous êtes entraîneur, de vous inscrire dans le projet du club. Quand vous signez dans un club comme Rennes, vous savez que vous avez cet élément-là à prendre en compte et à tout faire pour valoriser, faire progresser les jeunes, formation, et les intégrer le plus possible. Voilà. Sinon, vous venez pas à Rennes, vous allez dans un autre club.
Merci à Paul pour sa question. Merci, on accueille Paul. Floris.
Salut Floris.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis et salut Bruno.
Bon, bonsoir.
Un bel accent breton là, j'ai l'impression.
Je te laisse avec Bruno.
Ouais, pas trop l'accent breton, mais bon, Bruno, bon, du coup, moi, on va pas se cacher, je suis supporter lyonnais et je fais partie des anti-Genesio. Bon, pas anti-Genesio, parce qu'il faut faire partie des anti-Genesio. Moi, j'ai la petite question avant de la poser, c'est, certes, au début d'émission, on a trouvé des responsabilités à Rudy Garcia et à Peter Bosch, mais l'équipe qu'avait Rudy Garcia et l'équipe qu'avait Peter Bosch, désolé, mais c'est pas l'équipe que t'avais toi, Bruno. Donc, comment toi, ah oui.
Mais dans quel sens? Alors,
dans l'équipe sens, est moins forte aujourd'hui qu'à votre époque, je crois que c'est ça qu'il dit.
Pour moi, oui. Pour moi, l'équipe que tu avais, toi, était plus forte.
Qui est moins fort aujourd'hui que l'équipe que j'avais, par exemple?
Ah ben, si on prend par exemple Moussa, c'est moins fort que Alex, par exemple.
Dembélé Lacazette.
Voilà, Dembélé Lacazette. Fekir, ben là, en ce moment, je ne vois pas d'équivalent. Après.
On va dire Paqueta.
Oui, allez, Paqueta, d'accord. Ok, Paqueta, Fekir, là je suis d'accord, ça se vaut. Derrière, c'était incomparable quand on avait Ferland, Umtiti.
Ferland, il arrivait du Havre, hein. On l'a acheté 3 millions d'euros au Havre de Ligue 2.
Bien sûr.
Aujourd'hui, il y a Emerson qui vient, il me semble, d'un grand club italien, non?
Je ne sais plus. De Chelsea.
Ouais, Milan, Chelsea.
Non, de Chelsea aussi.
Les champions d'Europe.
Emerson, prêté un an, qui est venu là en touriste, sans jouer pendant un an, quoi. On avait Emerson.
Touriste?
Ah oui. Vu la saison d'Emerson, Bruno, tu es d'accord avec moi pour dire qu'il a complètement déçu par rapport à ce qu'on attendait de lui?
Ah oui, mais.
Après, c'est l'adaptation.
Tu me parles de qualité de joueur. Moi, je te dis, Ferland, il a énormément progressé, il joue au Real Madrid, mais il arrivait du Havre. Emerson, il arrivait de Chelsea.
Voilà, du coup, t'as ton avis, je le viens. Moi, du coup,
après, quel autre joueur? Vas-y, continue.
Pour comparer encore?
Le gardien, il n'a pas changé.
Ah, le gardien n'a pas changé. La défense
l'arrière droit, il me semble, c'est l'international équipe de France.
Tout ça parce que Rennes a fini devant Lyon, c'est ça?
Non,
mais ça fait partie.
Oui, le goal.
Ça fait partie des a priori. Et c'est ça que je conteste. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de Lyon, avec des joueurs différents,
à la même qualité que l'équipe que j'avais, avec des joueurs différents. On peut parler de joueurs différents, oui, ça je veux bien l'entendre. Mais quand tu me dis que l'effectif de Lyon aujourd'hui, il est moins bon que celui que j'avais, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est juste parce que tu veux voir cette façon-là qui t'arrange, c'est tout.
Non, ah non, pas du tout. Pas du tout.
Je viens de t'expliquer. Donne-moi une réponse. Alors, qui est meilleur aujourd'hui? Quel joueur était meilleur de mon groupe que ceux qui jouent aujourd'hui? Tu m'as parlé de Ferland Mendy, je t'ai répondu.
Bon. Oui, et la casette Dembélé, par exemple, parce que à l'époque
Dembélé a marqué combien de buts cette année?
Beaucoup.
22 ou 23 buts.
Ouais, il a fait
22 ou 23 buts dans une équipe qui a fini 8e.
Oui, mais Bruno, si on regarde
la page de match
des expected goals, Dembélé.
Oh non, mais ça, alors ça, franchement, pas me parler de ça.
Franchement, autant je peux aller dans ton sens, mais alors là, les expected goals, je vais aller dans le sens de Bruno. Franchement, ça, c'est une tannée.
J'avais un très bon groupe. Attention, je suis pas en train de dire que j'avais pas un très grand groupe. J'avais un très grand groupe, mais cette idée-là de dire que j'avais un meilleur groupe que les groupes qui ont été constitués. Lyon, c'est une grande équipe, c'est un grand club. Le président Aulas, il donne tous les moyens possibles et inimaginables pour faire la meilleure équipe possible. Donc ça, je veux pas l'entendre.
Voilà. Merci Floris en tout cas d'être venu poser des questions et mettre en lumière donc tes désaccords avec Bruno Genesio qui t'a répondu. Voilà, RMC permet le débat en tout cas direct. Vous avez Bruno Genesio, les supporters de Lyon.
Mais c'est bien, Bruno a dit que Lyon était un grand club et là moi je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est une anomalie que Lyon ne gagne rien depuis 10 ans.
Oui, après il y a eu aussi des choses qui ont été faites dans les structures.
Oui, bien sûr,
la construction du stade. C'est le seul club français qui est aujourd'hui propriétaire de son stade.
D'ailleurs.
Et forcément, ça a eu un impact sur l'aspect économique, sur le recrutement, sur plein de choses.
Sur l'aspect sportif.
Il faut un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'on aurait dû gagner quelque chose.
D'ailleurs, Lyon.
Et c'est mon plus gros regret. Tout à l'heure, je parlais de la demi-finale contre Rennes parce que je pense que c'était le bon moment pour aller en finale. Et peut-être
gagner un titre.
D'ailleurs, Lyon qui va revenir à un ADN lyonnais, la casette de Bretagne.
Tu penses que j'aurais été critique si tu avais gagné un titre? Non, j'aurais dit bravo aux joueurs, j'aurais dit bravo Bruno.
Non, je pense que tu aurais dit que c'était Paris qui était en dessous.
Ah, ça y est.
Et que c'est pour ça qu'on avait gagné.